Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Samuel Bernard, mais aussi Tiffaine de Rocchini, Clémence Alezard, Anne-Sophie Pierry, réalisée par Luc-Jean Reynaud et mise en onde ce matin par Pierre Faucillon. Toute cette semaine, donc, dans Culture Monde, on va s'intéresser à l'industrie du divertissement. Producteur de représentation, mais aussi d'interaction sociale, le divertissement est aussi un enjeu éminemment politique. Demain, nous partirons du côté de la Chine, mais aussi de la Corée, pour parler de karaoké, devenu un véritable phénomène social. Mercredi, on s'intéressera aux parcs d'attractions, qui peuvent parfois nourrir les sentiments nationalistes, on le verra. Jeudi, enfin, nous parlerons de Serious Games, les jeux vidéo sérieux, visant à sensibiliser leur public à des causes politiques, mais aujourd'hui, donc, direction notamment les États-Unis, pour une plongée dans le monde des talk-shows.
Good evening, it's me, Donald J. Trump. In case you're wondering, the J stands for genius.
Donald Trump thinks we have a feud because he won't do my show. As if I could give a fuck if that moron did my show.
Welcome back. Because it's been almost 10 minutes since I mentioned him, Donald Trump. A lot of people think he might be racist. And then there are the people who don't vote for him.
We showed with pictures that there are only two things in nature that have that exact same color hair. Donald Trump and an orange-haired orangutan. And we will make America great again.
Great again.
Aux États-Unis, on ne compte plus les talk-shows télévisés depuis le Saturday Night Live de Comedy Central avec Trevor Noah, au Tonight Show de Jimmy Fallon, en passant par les plus politiques John Oliver sur HBO ou Stephen Colbert sur CBS. Des talk-shows présentés par de véritables performeurs qui, ces derniers mois, se sont révélés être de farouches opposants à Donald Trump, poussant la satire à des niveaux inégalés jusqu'alors. De Trevor Noah à John Oliver, quels sont ces présentateurs qui transforment le divertissement en information? Quelle est la recette de leur succès? Est-elle portable et que produit-elle sur le public? Voilà les grandes questions sur lesquelles nous allons nous pencher ce matin. Pour ce faire, on a invité Aurélien Le Foulgoc. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'université de Cergy-Pontoise. Vous avez notamment écrit un article dont on parlera tout à l'heure, où vous comparez la situation française et la situation américaine, qui est paru dans la revue Télévision numéro 8. On verra ça dans quelques instants, mais d'abord peut-être un tout petit mot. On entendait là quelques extraits de talk show dans lesquels on entendait parler évidemment de Donald Trump. On l'a entendu, ils ont été assez sévères à l'égard de Donald Trump, mais au-delà des critiques formulées à l'égard du candidat républicain devenu maintenant président, on a quand même senti une forme d'hébétement, Aurélien Le Foulgoc, assez total face au phénomène Trump, je parle, et peut-être davantage d'une certaine manière à ses électeurs qu'à lui-même. Au fond, ce monde de la satire qui pratique comme ça la moquerie permanente à l'égard des responsables politiques, j'ai le sentiment, mais vous allez nous dire ce que vous en pensez, s'est retrouvé un peu comme stupéfaite par l'élection de Trump, comme si, au fond, ces professionnels de l'humour ne savaient pas vraiment comment s'y prendre pour faire rire sur la vague populaire qui l'a conduit précisément à la Maison-Blanche. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, effectivement, il pratique la satire, il pratique une forme d'outrance dans l'humour, et c'est vrai que l'outrance du candidat Trump les a relativement dépassés. Trevor Noah, pendant toute la campagne, a régulièrement, quasiment à chaque émission, a exprimé son incompréhension face à la capacité qu'avaient certains électeurs à voter pour Donald Trump. Donc c'est vrai qu'ils sont restés, vous le dites, et vous avez raison, ils sont totalement hébétés face à la montée en puissance de ce candidat. Et la satire ne l'a pas freiné, c'est-à-dire qu'on peut pas dire qu'il y ait eu un rôle actif de ces satiristes, de ces humoristes, pour éventuellement mettre au jour le personnage, par exemple.
Et puis par ailleurs, durant la campagne, même si Trump s'est régulièrement en réalité plein du traitement infligé par les médias, il a quand même bénéficié d'une couverture plus large finalement que sa rivale.
Exactement, c'est-à-dire qu'on a une focalisation aussi aux États-Unis sur ce personnage, Donald Trump, qui est un excellent client pour les satiristes, et du coup il a fait beaucoup plus de bruit médiatique que Hillary Clinton, ça c'est certain. Oui.
Alors vous avez donc réalisé cette étude comparative des campagnes électorales françaises et américaines à travers deux émissions de divertissement, l'une française et l'autre américaine, Quotidien Diane Barthès et puis Daily Show, qui est donc un très célèbre talk show américain qui a longtemps été présenté par Jon Stewart pendant quasiment une quinzaine d'années et qui désormais est présenté par Trevor Trevor Noah sur la chaîne Comedy Central. On peut voir certains points communs dans l'approche présentée par l'une, proposée par l'une et par l'autre. C'était en tout cas l'avis du New York Times qui, en 2015, avait vu dans le petit journal de Yann Barthès, à l'époque c'était le petit journal, il disait une version française du Daily Show, un programme irrévérencieux qui repose sur des correspondants qui moquent et mettent en lumière les faiblesses des puissants. Alors il y a évidemment des limites à cette comparaison, mais on a régulièrement dit, Aurélien Le Folcoq, que finalement la France ne savait pas faire de talk show à l'américaine. Il y a eu un certain nombre d'échecs qui sont venus finalement affirmer cette thèse. Est-ce que vous diriez que finalement aujourd'hui la France a trouvé la recette ?
Disons que c'est deux traditions différenciées, c'est certain. On a une tradition journalistique en France où on a Quotidien qui va progressivement aller vers ce qu'on peut considérer comme étant du talk show, même si c'est un journal au final. Et on a une tradition américaine dans laquelle on a des humoristes qui viennent du stand-up. Donc il est vrai que aux États-Unis, ces émissions sont nourries en termes d'animateurs par le stand-up et par l'humour. Beaucoup d'auteurs aussi. Alors, on ne sait pas faire. Thierry Ardisson, par exemple, lorsqu'il a lancé Salut les Terriens il y a une dizaine d'années maintenant, s'est revendiqué du Daily Show. Il a clairement dit qu'il voulait réaliser la synthèse entre l'humour et la présentation et l'interview plus traditionnelle. Et donc, avant d'avoir Laurent Baffie, parce qu'il a récupéré Laurent Baffie aujourd'hui, il incarnait les deux rôles à l'américaine, en fait. On peut considérer que Laurent Ruquier, dans son ouverture d'On n'est pas couché, s'inspire de cette tradition avec un stand-up qui nous fait pendant une quinzaine de minutes, avec de l'humour, à partir de l'actualité. On retrouve la même configuration en fait aux États-Unis.
Donc, sauf que comme vous le dites, c'est des parcours très différents. Laurent Ruquier est d'abord et avant tout un journaliste. C'est le cas aussi de Yann Barthès. Quand on regarde du côté des États-Unis, effectivement, on est plus du côté de la branche de l'humour. On a des présentateurs qui avant faisaient des spectacles humoristiques. Par exemple, Jon Stewart faisait du stand-up avant d'arriver à la tête de son premier talk-show. Donc ça, c'est une vraie différence.
Oui, Bill Maher aussi. Bill Maher continue à faire du stand-up. Il est sur HBO avec le Real Time with Bill Maher, qui est une émission hebdomadaire qui aborde l'information de la semaine de la manière la plus sérieuse possible, toujours avec une dose d'humour, mais de la manière la plus sérieuse, avec des invités qui sont des invités vraiment politiques. Donc c'est vrai que c'est deux traditions, vous avez raison, ils viennent de deux opposés, ils se retrouvent sur un terrain commun qui est donc le talk show.
Il y a aussi une grande différence entre la France et les États-Unis, c'est que, évidemment, en France, on n'hésite pas à critiquer le pouvoir, mais en revanche, on défend une certaine approche supposément impartiale, neutre. On revendique taper autant sur la droite que sur la gauche, même si c'est pas forcément vrai, alors que du côté des États-Unis, on a moins de pudeur, finalement, à se positionner clairement, à ancrer de façon assez ostentatoire, finalement, son programme sur l'échiquier politique. Ça, c'est une vraie différence. Il y a finalement une forme de subjectivité qui est assumée du côté des États-Unis.
Oui, les traditions audiovisuelles des deux pays sont très différentes. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on a une télévision qui se développe de manière commerciale dès le début, donc relativement indépendante du pouvoir politique. Et vous avez une télévision en France qui est sous la coupe du pouvoir pendant très longtemps. Donc en France, les journalistes sont toujours aujourd'hui dans le fait de démontrer une forme d'indépendance, de distance par rapport aux politiques. La télévision repose sur la neutralité, en fait. C'est la presse qui est une presse d'opinion en France. Aux États-Unis, on parle de médias bleus et de médias rouges, oui. Et on peut considérer que ces talk-shows sont très largement bleus, c'est-à-dire démocrates. Là où d'autres émissions d'information, on parle beaucoup de Fox News, par exemple, comme sont plus républicains, je dirais.
Et est-ce que, justement, ces présentateurs se considèrent comme des journalistes ? La réponse est clairement non. On a compris qu'ils ne viennent pas de cette tradition-là. Ils ont très rarement fait des écoles de journalistes. Je crois qu'aucun, en tout cas, de ceux que nous avons cités, ont fait des écoles de journalistes. En revanche, ils peuvent considérer que, d'une certaine manière, le traitement de l'information qu'ils proposent revient à faire aussi du journaliste. Est-ce que c'est le cas ?
Ils ne se revendiquent pas comme journalistes, ça c'est vrai. Ils se distinguent très clairement des journalistes et eux revendiquent plutôt de faire de l'humour. C'est ce que dit Jon Stewart. Hein. Jon Stewart n'a jamais revendiqué cette position de journaliste. Et donc il dit, moi je m'amuse avec la politique parce que c'est un sujet qui m'intéresse, mais je suis avant tout un humoriste et je suis là pour m'amuser. Donc je ne suis pas journaliste. En revanche, ça ne l'a pas empêché d'être très critique envers les journalistes. C'est notamment l'affaire avec Crossfire sur CNN où il va ouvertement critiquer ces journalistes en leur disant qu'ils font plus de mal à la démocratie qu'autre chose en fait. Et donc c'est quelqu'un qui avait un regard sur le travail journalistique et on peut dire d'ailleurs que ces animateurs plus globalement portent un regard sur le journalisme qu'on peut qualifier de traditionnel et donc du coup se positionnent souvent par rapport à ce journaliste.
Et puis cette différence d'approche, c'est aussi quelque chose qui se voit dans la nature des chaînes qui proposent ces programmes. En France, ce sont finalement des chaînes généralistes, en l'occurrence pour le quotidien c'est TMC, du côté des États-Unis c'est par exemple Comedy Central. Central, qui est une chaîne clairement définie comme une chaîne humoristique. Par ailleurs, l'heure aussi des programmes. Pour le quotidien, c'est finalement en face des journaux, ou quasi.
Oui.
Alors que pour le Daily Show, par exemple, c'est le dimanche soir, relativement tard,
23h. Ouais. C'est ça, oui. Il fait partie des late shows. C'est une tradition aux États-Unis. C'est vrai que les talk shows sont diffusés en deuxième partie de soirée, c'est vrai. Quotidien, encore une fois, se revendique comme un journal. Un journal générationnel. Donc c'est vrai qu'en termes de programmation, ils sont à cheval entre l'access prime time, donc 19h, 20h, et donc le moment du journal.
Puis ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'ils se revendiquent comme un journal, mais que d'une certaine manière, ils le sont, parce qu'ils produisent aussi du contenu informationnel. Regardons par exemple la séquence, les reportages que propose Martin Veil, qui a la charge de l'actualité internationale, qui parfois se retrouve sur des terrains, et sur des terrains parfois extrêmement difficiles, sur lesquels il va pouvoir retrouver d'autres grands reporters de presse. Je pense à la Syrie, je pense à la route des migrants. Donc là aussi, il y a du contenu informationnel qui est produit.
Oui, c'est la forme d'hybridation, je dirais, la plus poussée entre information et détente, humour, dans le sens où ils possèdent une vraie rédaction de journalistes, comme vous dites, ils ont les moyens d'être sur le terrain et donc ils produisent des cadrages de première main. Là où la plupart des talk shows, si on prend les talk shows américains, par exemple, ils ne possèdent rarement de rédaction et ils ne sont pas en position de produire de l'information. Donc ils sont souvent dans le commentaire, en fait. Mmh. Là où quotidien est véritablement dans une production de l'information. Et parfois, ils font même, ils occupent même une position d'éclaireur, dans le sens où les journalistes vont suivre. Lorsque Martin Veil vit une partie du parcours des migrants, par exemple, de la Syrie vers l'Europe, on voit des reportages ensuite sur France 2 et sur les grands journaux, mais c'est après. Mmh. C'est le premier à le faire en immersion et à nous produire ce terrain, en fait.
Ce qui n'empêche pas les politiques éventuellement de critiquer ces programmes et notamment de critiquer la dimension journalistique de cette affaire-là. Souvenons-nous, par exemple, de l'équipe de campagne de Jean-Luc Mélenchon qui, pendant la campagne, avait dit que précisément, bien, ces journalistes n'étaient pas des journalistes.
Oui, c'est vrai. Il y a une forme d'agressivité de la part des politiques. Cette agressivité, elle vient très certainement aussi du manque de lisibilité, c'est-à-dire que vous êtes devant une forme qui n'est pas une forme journalistique traditionnelle, donc vous savez pas bien comment la négocier. Et donc les politiques ne sont pas forcément aussi rodés face à des journalistes comme ceux de Quotidien, et donc ils sont très certainement plus mis en difficulté. Voilà. Parce qu'il y a des modes de lecture décalés, parce que certaines mises en scène des politiques sont lues, sont démontées, sont décryptées, et quelque part, ça les met parfois au jour. Quoi.
Ce qui est aussi un défi, d'ailleurs, pour la commission d'attribution des cartes de journalistes, parce qu'effectivement, dans ces blocs de produits audiovisuels en l'occurrence, vous avez des vrais journalistes qui produisent du contenu et puis vous avez d'autres types d'acteurs qui en réalité ne relèvent pas de ce qu'on pourrait entendre traditionnellement comme du journalisme.
C'est vrai, mais c'est ce qu'on retrouve dans le vrai journal de Carl Zero au début des années 2000. On a la même hybridation, sauf que le déséquilibre est plutôt en faveur de l'humour et donc c'est une formule qui n'a pas totalement fonctionné. Aujourd'hui, oui, on est vraiment à cheval entre les deux et on a cette rencontre entre journalistes et cette cohabitation heureuse, on peut le dire, puisque à l'antenne, ils se présentent vraiment comme une bande d'amis, hein, vraiment la mise en scène de l'équipe. Et donc, on a une forme de symbiose entre les deux, entre l'humour et le journalisme, comme si la cohabitation entre les deux ne posait pas de problème. Sur la commission de la carte, c'est intéressant, parce que ça permet de se rendre compte que les journalistes de Quotidien posent la question du statut, de ce qu'est un journaliste, de la définition même du journalisme. Et donc, on se rend compte là qu'on est aux marges, qu'on est aux franges du journalisme, et donc du coup, forcément, ça questionne la profession. Dans le bon sens, dans le sens où elle-même va réfléchir sur ses pratiques et peut-être les adapter et les changer.
Aurélien Le Fulgoc, parlons un petit peu du déroulé narratif. Quand le mode de narration, par exemple, du Daily Show with Trevor Noah, il est évidemment tout à fait spécifique, tout est écrit, très écrit en tout cas. C'est une forme de long sketch où les performances d'acteurs, d'imitateurs vont s'enchaîner. C'est un déroulé narratif extrêmement spécifique. Expliquez-nous comment ça fonctionne.
Oui, c'est vrai qu'aux États-Unis, les talk shows sont écrits, souvent répétés à l'avance, en fait, même avec les invités. On a une répétition, ils sont associés au sketch. Donc, il y a une association très...
Tout est scénarisé.
Voilà, exactement. Tout est écrit, tout est scénarisé. Vous avez des bataillons d'auteurs, en fait, hein, qui rédigent les textes. Et donc, aux États-Unis, vous êtes véritablement sur du spectacle. Sur du spectacle. Donc, sur une narration extrêmement forte et une construction qui se passe en amont. On n'a pas cette tradition, on a moins cette tradition en France, où on est plus dans une forme de... Alors, spontanéité, c'est un grand mot, mais disons qu'on a un chemin de fer, et dans ce chemin de fer, on va naviguer, alors qu'aux États-Unis, absolument tout est industrialisé en termes d'écriture, en termes de rôle, même incarné dans les émissions.
Ça veut dire que la scénarisation est telle que quand on reçoit un invité, et notamment un invité politique, l'invité sait quelles sont les questions qui vont lui être posées, et il sait même comment il va y répondre.
Pour Jimmy Fallon, les invités culturels, c'est le cas. Les invités politiques, je serais moins formel. Mais pour les invités culturels, oui, c'est la plupart du temps, c'est le cas. Ils sont associés pleinement et encore une fois, ils répètent. Pour les invités politiques, ça demande à être vérifié. Il me semble que c'est plus compliqué à assumer.
Jimmy Fallon, vous en parliez, à la tête de The Tonight Show sur NBC. Bon, on va écouter un petit extrait.
Oui.
Donald, I want to ask you, because the next time I see you could be the president of the United States. I just wanted to know if there's something we could do that's just not presidential, really, or something that we can do now that we're just both civilians. Like,
like what? This is... I'm not liking the sound of this. Go ahead.
Could I mess your hair up?
The answer is yes, but the people in New Hampshire, where I'm going to be in about an hour from now, I hope they're going to understand.
Okay. You say yes?
Go ahead, with my hairspray.
Et ça, c'est un moment extrêmement étonnant. Je ne sais pas si les auditeurs l'ont vu, mais donc Jimmy Fallon qui secoue la tignasse blonde de Donald Trump, un geste assez difficilement imaginable ici, qui d'ailleurs avait été reproché aussi du côté des États-Unis à Jimmy Fallon, considérant qu'il aurait dû précisément lui poser des questions sérieuses plutôt que de jouer avec lui d'une certaine manière, de le rendre sympathique. Je n'essayais pas de le rendre humain, avait-il dit. J'ai presque essayé de le minimiser. Je ne pensais pas que ça serait vu comme un compliment, s'était-il défendu. Ce fameux Jimmy Fallon. C'est un vrai problème, Aurélien Le Foulgoc, que celui de ces programmes qui ont quand même tendance à rendre sympathiques nos responsables politiques qui y sont reçus. Alors là, je parle de Jimmy Fallon, mais c'est des choses qu'on avait entendues d'ailleurs dans la campagne à d'autres moments pour d'autres émissions, hein, Aurélien Le Foulgoc.
Oui, exactement. À partir du moment où vous êtes sur l'empathie, et c'est vrai que ces émissions reposent en partie sur une forme d'empathie, vous ne pouvez pas empêcher le fait que vous allez percevoir ces responsables politiques, quels qu'ils soient, quel que soit leur extrême finalement, comme des hommes et des femmes qui peuvent effectivement être sympathiques. Et donc si vous prenez Nicolas Sarkozy en France, si vous prenez Florian Philippot, vous avez tout un tas de responsables qui a priori ne bénéficient pas forcément d'un capital sympathie extrêmement impressionnant, mais ils ressortent de ces émissions humanisées, et encore une fois, ces émissions ne sont pas forcément pleinement capables d'être dans la critique, d'être dans le fait, si vous voulez, de démonter les discours des politiques quand ils sont sur les plateaux. À partir du moment où vous jouez avec, oui, quelque part, vous allez les humaniser.
Ouais. Y compris quand vous pensez leur faire du mal, y compris quand vous les comparez, par exemple, à Hulk, au Joker de Batman ou encore à Dark Vador, ce qu'avait fait justement Trevor Noah dans son émission. Paradoxalement, vous dites que ces comparaisons ont participé, je vous cite, à normaliser et à opérer un transfert affectif profitable.
Oui, vous les rendez familiers, en fait. À partir du moment où vous utilisez des éléments qui appartiennent à notre univers, à notre culture, mainstream, pour le cas de Hulk, par exemple, des super-héros, vous allez effectivement les familiariser et donc produire une forme de proximité de certains aspects de leur personnage. Donc vous allez, oui, permettre aux gens de se les approprier et donc les intégrer dans leur univers. Donc la mise à distance, le rejet, si vous voulez, du coup, est beaucoup plus compliqué. Vous allez, oui, les humaniser d'un point de vue plus large.
La place du politique dans ces émissions américaines et peut-être dans l'émission française, parce que vous avez justement comparé les invités et les thématiques sur près de 2 mois d'émission au moment de la primaire de la droite en France et puis au moment des élections générales aux États-Unis. Et là, j'ai le sentiment, en tout cas c'est ce que vous avez l'air d'expliquer, c'est qu'au fond les deux émissions sont pas si éloigné. Au fond, le monde politique, il y a à peu près la même place. Alors, il n'est pas traité de la même manière, mais en termes de représentation, il est aussi important dans l'un et dans l'autre, non ?
Oui, il est même plus important dans le Daily Show. La part des responsables politiques est à peu près de 64%, ce que j'ai pu montrer, et dans le quotidien, on est plutôt à un tiers, hein, 34%. Donc, la part des politiques est moins importante dans le quotidien, ils se pensent comme un journal, donc vous avez aussi des invités culturels, mais c'est vrai que dans le Daily Show, les deux tiers des invités sont des invités politiques pendant la campagne, ça en fait pleinement une émission dédiée à la politique.
Si on regarde un peu les audiences justement du Tonight Show de Jimmy Fallon dont on parlait, compte tenu de ce qu'on vient de dire à propos du fait que même si vous brocardez ces responsables politiques, vous les normalisez d'une certaine manière, quand on regarde les audiences du Tonight Show, on se rend compte qu'elles sont globalement un peu en retrait par rapport à son concurrent direct qui est Stephen Colbert, qui anime lui aussi une émission de fin de soirée mais sur CBS et qui lui est, disons, plus politisé. Cette émission-là, en l'occurrence, ces derniers mois, et en particulier dans la campagne, elle a gagné des parts de marché. Est-ce qu'il faut y voir justement une forme de rejet de ces programmes qui seraient considérés comme trop obséquieux à l'égard de leurs invités ?
Oui, c'est vrai que Stephen Colbert est plus agressif en termes de traitement. Et donc, vous avez une différence, si vous voulez, entre Jimmy Fallon, qui appartient plus à ces talk-shows dits culturels, c'est-à-dire qui sont pas directement dédiés à la politique, par rapport à des talk-shows qui sont pleinement investis sur les questions politiques, comme le fait Stephen Colbert, qui vient et qui était animateur, chroniqueur dans The Daily Show, à l'époque donc de Jon Stewart. Et donc, vous avez, oui, une tradition sur le traitement plus acerbe, plus régulier de la politique. Exactement comme Bill Maher. Bill Maher, The Daily Show with Trevor Noah aujourd'hui et le Late Show de Stephen Colbert sur CBS appartiennent à peu près à la même famille, c'est-à-dire qu'ils sont pleinement investis sur les questions politiques. Ensuite, vous en avez d'autres.
Ils sont plus journalistes ?
Non, ils ne sont pas plus journalistes.
Ils ne sont pas plus journalistes.
Non, ils s'intéressent plus aux thématiques politiques et ils les traitent beaucoup plus que les autres. Oui, c'est vrai. Que Fallon, qui est plus, si vous voulez, dans le celebrity business, on peut le formuler comme ça, c'est-à-dire autour de la promotion culturelle. Il invite beaucoup plus d'invités qui sont des acteurs, qui sont des chanteurs.
Et est-ce que vous pensez précisément que dans cette ère qu'on nous dit depuis des mois de la post-vérité, de la fake news, précisément, on va avoir... les téléspectateurs américains vont avoir envie, besoin de shows, de talk-shows davantage politisés. Vous pensez qu'on va vers ça ?
Je ne sais pas s'il y a un besoin des téléspectateurs de talk-shows. Je pense clairement que les talk-shows sont une réponse différenciée par rapport au journalisme, donc un autre éclairage qui peut effectivement aider à se construire une opinion politique, mais d'un point de vue complémentaire par rapport à l'information. Et ce qui est intéressant, oui, avec ces talk-shows, américains, c'est qu'on a chez les téléspectateurs, je pense, une dimension un peu générationnelle, dans le sens où, par exemple, Quotidien est beaucoup plus regardé par les jeunes. The Daily Show est une émission très jeune, en fait, en termes de public. Donc, les talk shows correspondent plus, si vous voulez, à une réponse à une génération qui ne se retrouve pas dans les formats traditionnels.
Et une génération qu'on dit souvent moins politisée que ses aînés. Donc, d'une certaine manière, on pourrait se dire que... Parce que c'est intéressant de regarder l'effet aussi que tout ça peut avoir. D'une certaine manière, on peut se réjouir d'avoir des gens qui, a priori, sont assez méfiants, défiants à l'égard de la politique et qui, d'un coup, se retrouve baigné. Alors soit le traitement n'est peut-être pas parfaitement adéquat, mais en tout cas il existe, il est là et ça politise d'une certaine manière ces téléspectateurs, ces jeunes téléspectateurs.
Oui, ça politise différemment. Je pense que là il faut partir de l'idée que les médias et les contenus et les formes médiatiques ont une force d'inertie générationnelle et donc il y a une incompréhension des anciens par rapport aux nouveaux et que cette incompréhension on la retrouve par exemple dans Quotidien où les jeunes adhèrent pleinement et on sent que les personnes plus âgées ont plus de retenue par rapport à cette émission ou du moins adhèrent moins à ces formats. Donc vous avez, oui, comme dans toute forme culturelle aussi d'ailleurs, hein, une forme d'illégitimité au démarrage, de non-reconnaissance, et cette reconnaissance, elle suit encore une fois l'inertie générationnelle.
La fabrique du divertissement, l'arc du talk show, Aurélien Le Foulgoc, on va écouter peut-être un nouvel extrait. Last Week Tonight with John Oliver, donc cette émission satirique américaine dont on a déjà parlé, diffusée sur HBO depuis 2014, c'est toujours le dimanche, c'est à 23h je crois. John Oliver qui lui aussi est comédien parce qu'on a bien compris que c'était la tradition du côté des États-Unis. Il avait participé au mythique Daily Show with Jon Stewart dont je parlais tout à l'heure, avant d'avoir donc son propre programme. Il s'adressait là directement aux Français. On était en pleine campagne présidentielle. Il s'adressait aux Français, en français s'il vous plaît.
Mais s'il vous plaît, écoutez-moi. L'Angleterre et les États-Unis en fucked up. Ne fucked pas non plus. Marine Le Pen est, comment on dit en français, un trou de cou démagogue. Un monstre ouze trou de cou démagogue. Vous valez mieux que ça. Ceci est votre chance d'être à la hauteur de la philosophie des Lumières et montrer au monde entier que les idéaux français de liberté, égalité, fraternité vont ensemble comme... Larry Skywalker et bien sûr l'espèce d'ours. Au secours, la France, vous êtes notre seul espoir. C'est tout pour ce soir. À la semaine prochaine. Bonne nuit, mon amour.
Après, c'est un extrait qu'on avait beaucoup vu ici en France, qui avait été repris par les médias français. C'est vrai que c'est assez rare que la France se retrouve comme ça, sous les projecteurs des talk-shows américains. C'est assez rare, en réalité.
Oui, je pense qu'ils ont senti l'élection française comme un écho de leur élection américaine, dans laquelle Bernie Sanders, finalement, n'a pas réussi à imposer un projet véritablement alternatif, et dans lequel on s'est retrouvé face à une Hillary Clinton embourbé dans son parti, quoi. Donc oui, c'est vrai qu'il y a eu un intérêt très marqué pour l'élection française. Encore une fois, ça faisait écho, il le dit dans son sketch, au Brexit et l'accession de Donald Trump au pouvoir. L'accession de Marine Le Pen au pouvoir en France aurait été un cran supplémentaire dans la montée des populismes.
Et attendez, ça veut dire que finalement, ce qui intéresse en l'occurrence les téléspectateurs américains et John Oliver en particulier, c'est davantage l'actualité américaine à travers l'actualité française, mais c'est finalement ce que nous dit l'actualité française de l'actualité américaine. Parce qu'on n'est pas tellement intéressé par l'actualité internationale en général dans ce genre de talk show.
C'est vrai, il y a assez peu d'intérêt pour l'actualité internationale donc aux États-Unis. Par contre, pour les talk shows, c'est pas vrai. Il y a un intérêt marqué pour l'actualité internationale. C'est ce qu'a montré par exemple Matthew Baume, où on a véritablement des thématiques internationales qui sont très fortes, notamment sur les conflits, les guerres, qui sont très abordées par ces talk shows. Donc il y a une ouverture spécifique de ces talk shows sur l'international. En revanche, c'est vrai que l'élection française a été vue comme, oui, un écho de l'élection américaine. Donc ça les intéressait avant tout parce que ça parlait d'eux-mêmes, quoi.
On retrouvera d'ailleurs tout à l'heure Matthew Baume par téléphone. La question aussi de l'engagement, parce qu'il y a des thèmes qui ont été très traités durant la campagne américaine dans ces fameux talk shows. C'est la question de la violence, des discriminations à l'égard de la communauté afro-américaine, mais aussi à l'égard des femmes, avec des chroniqueurs qui criaient assez ouvertement leur détestation des misogynes et des racistes en tout genre. Une fois encore, Trump était assez largement... très souvent, en tout cas, visé par tout ça. Mais vous dites que, je vous cite, l'incarnation et l'engagement produisent un investissement particulièrement marqué dans la pédagogie et la didactique.
Oui, c'est vrai.
Aussi. On fait de la pédagogie, on montre son engagement.
Mais exactement. Alors, prenons le cas de Yann Barthès, il sort souvent des graphiques, il sort souvent des panneaux blancs, et parfois quand il s'agit d'expliquer une information un peu compliquée, il dit « attention, ça va être un peu compliqué », et derrière, il annonce une forme de pédagogie. Aux États-Unis, c'est extrêmement intéressant, parce que vous avez des chroniqueurs, par exemple, dans le Daily Show, Trevor Noah, qui sont spécialisés, je dirais, dans les thématiques. Vous avez Roy Wood Jr., par exemple, qui est afro-américain, et qui va porter les questions de discrimination envers les Noirs. Trevor Noah, d'ailleurs, va les porter aussi lui-même, de manière très aiguë. On se rend compte d'ailleurs que les questions de discrimination aux États-Unis sont très très importantes. Vous avez Jordan Klepper qui est plus le WASP américain qui va porter ces questions notamment de discrimination autour des homosexuels. Et vous avez Ronnie Chiang qui incarne cette minorité un peu asiatique et qui va porter lui aussi les questions autour de ces minorités. Vous avez Hassan Minhaj qui porte les questions autour des musulmans et donc des religions. Et donc c'est extrêmement intéressant parce que vous avez en fait une absence de distance dans le sens où ils vont incarner leur sujet. Ils vont incarner les minorités ou les sujets qu'ils vont représenter, et qu'ils vont porter. Donc ça, c'est extrêmement intéressant.
Oui, ce qui est très différent de la France, parce qu'on ne verrait pas ça dans des talk shows français. On met en scène, d'une certaine manière, les différences, les communautés, ce qu'on ne voit pas en France.
C'est moins le cas.
La fabrique du divertissement, l'art du talk show, quand l'information sert le rire, c'est notre sujet ce matin. On est avec Aurélien Le Foulgoc.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
4 ans de prison à un dentiste pour avoir agressé sexuellement une patiente après l'avoir endormie. Une jeune femme meurt à l'hôpital après avoir reçu une surdose de médicaments. Roger Deslandry quitte la presse. Guy Crevier prend sa relève. Voici le Grand Journal avec Jean-Luc Mongrain.
Jean-Luc Mongrain, célèbre journaliste animateur québécois qui en 1999 animait cette émission sur la chaîne TQS intitulée Le Grand Journal entre 16h30 et 18h30. On va prendre la direction justement du Québec pour retrouver Frédéric Bastien qui est professeur au département de sciences politiques de l'Université de Montréal et auteur de cet ouvrage Tout le monde en regarde, la politique, le journalisme et l'infodivertissement à la télévision québécoise. Vous dites Frédéric Bastien que l'arrivée en 1999 de Jean-Luc Mongrain à la barre donc de son Grand Journal a marqué une rupture avec la forme traditionnelle du journal télé. Qu'est-ce qui change justement avec ce programme dans la manière d'articuler information et divertissement, Frédéric Bastien ?
Alors, je vous invite, vos auditeurs et vous, à penser au journal télévisé tel que vous le connaissez traditionnellement, par exemple celui de France 2. Et plutôt que de voir à l'écran un animateur qui est un journaliste qui, d'une manière générale, va satisfaire, répondre au code déontologique du journalisme. Alors, imaginez plutôt un animateur qui a probablement fait carrière à la radio, qui verse beaucoup dans le commentaire, qui, plutôt que de lire les nouvelles, vous les raconte. Il est debout, il se déplace dans son studio, il est très expressif, il s'indigne, il réagit, il manifeste des émotions, de l'ironie. Alors ça, c'est en rupture complète avec le format habituel d'un journal télévisé. Alors, bien sûr, au grand journal, il y avait aussi des journalistes plus conventionnels qui présentaient des reportages factuels et ainsi de suite. Mais pour la première fois, on avait à la télévision québécoise un journal télévisé qui était dirigé par, j'allais dire un lecteur de nouvelles, mais un présentateur qui n'était pas justement un lecteur de nouvelles. Et ça, c'était en rupture complète avec ce qu'on avait vu précédemment.
Alors au Québec, comme dans beaucoup de pays, les émissions qui combinent comme ça l'information et le divertissement, qui se sont multipliées, vous l'avez dit, vous le dites dans votre livre, à partir des années 80, avec une vraie affirmation extrêmement forte à partir des années 90, beaucoup critiquent ces émissions, mais finalement, tout le monde les regarde. C'est d'ailleurs ce qui explique évidemment l'extrême longévité d'un programme comme Tout le monde en parle, qui existe aussi au Québec, qui a débuté en 2004, qui existe encore aujourd'hui et qui est un modèle dans le mélange entre information et divertissement. Mais certains considèrent que justement, Tout le monde en parle et cette émission donc québécoise est symptomatique de, je vous cite, la dégénération de l'information politique à la télévision de Radio-Canada. C'est l'avis par exemple de Lysiane Gagnon, qui est une célèbre journaliste canadienne, qui travaille pour le quotidien La Presse de Montréal et pour le quotidien Globe and Mail de Toronto. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le traitement de l'information sur la télévision publique canadienne s'est dégradé, et si c'est le cas, je voudrais comprendre d'où vient cette dégradation.
Je pense que parler de dégénérescence, c'est une exagération. Il y a lieu d'être plus nuancé, mais il est certain que la présentation de l'information à la télévision québécoise, et notamment à la télévision publique, s'est transformée. On trouve beaucoup moins que par le passé de grandes émissions d'affaires publiques qui permettent, par exemple, la diffusion de reportages longs, de reportages de 20, 30, 45, 60 minutes, ou encore la présentation de très longues entrevues ou de tables rondes par lesquelles on va consacrer 45 ou 60 minutes à un sujet unique. Ces émissions-là se sont raréfiées à la télévision canadienne, notamment à Radio-Canada, qui, plus que les chaînes privées, avait l'habitude d'en présenter un bon nombre dans sa programmation. En revanche, on trouve une plus grande place au journal télévisé. Les journaux télévisés sont plus nombreux. Ils sont plus longs aussi. Mais d'une manière générale, de dire qu'il y a eu une dégénérescence, c'est peut-être un petit peu exagéré. Dans le cas de Tout le monde en parle, ce qui agace beaucoup la communauté journalistique, et avec raison, je crois, c'est que elle a une importance telle par l'auditoire qu'elle rejoint et aussi par la visibilité que certains médias, en particulier la presse écrite, vont lui accorder, parce que lorsqu'un politique va à Tout le monde en parle, souvent le lendemain, il va y avoir des reportages ou des articles pour relater le contenu de l'entretien. Ce qui agace beaucoup, c'est les journalistes, c'est le poids très grand de cette émission-là dans l'espace public. Le fait que pour un politique, participer à Tout le monde en parle, c'est un élément très important de son plan de communication et un élément qui est devenu plus important que la participation à plusieurs émissions d'affaires publiques dont les auditoires sont très modestes comparativement à Tout le monde en parle. Et de plus, il est arrivé à certaines occasions que les producteurs de l'émission Tout le monde en parle demandent et obtiennent de la part des politiques la primeur sur une entrevue. court-circuitant ainsi d'autres émissions d'information de la télévision de Radio-Canada. Donc, vous faites une campagne électorale, je vous invite à Tout le monde en parle, mais je vais vous demander de ne pas aller à d'autres émissions avant la diffusion de Tout le monde en parle. Et le fait que la direction de Radio-Canada tolère ce genre de pratique agace les journalistes, et ça, je pense que c'est un enjeu qui est sérieux.
Un enjeu et donc un défi pour les journalistes. On va y revenir dans un court instant, Frédéric Bastien. Mais d'abord, vous parliez du poids de cette émission, Tout le monde en parle. C'est vrai qu'on attribue souvent à ces programmes d'infodivertissement des effets considérables sur le téléspectateur. Il y a par exemple ce chercheur américain, Matthew Baum, qui parle de soft news et qui dit, lui précisément, que l'impact, l'influence de ces programmes sur l'opinion publique est extrêmement forte. Vous dites que quand on étudie sérieusement les choses et l'impact justement de ce genre de programme, on se rend compte qu'il n'est pas si important. Vous dites que l'impact des médias est souvent beaucoup plus complexe et indirect que l'on l'imagine, car la réception des messages est médiatisée par tout un ensemble de facteurs sociaux et psychologiques qui en limitent les répercussions.
Bien sûr. Bien sûr. Lorsque vous regardez une émission de télévision, que vous écoutez une émission de radio, que vous lisez un article dans un journal ou un magazine, bien souvent, vous vous exposez à ces messages-là avec déjà tout un ensemble d'a priori, d'opinions, de croyances qui vont venir structurer et souvent limiter l'impact que le message peut avoir. C'est la même chose pour la publicité, d'ailleurs. Alors, oui, les effets de ces émissions-là peuvent être exagérés. Cependant, il est difficile d'imaginer que ces émissions-là n'ont pas d'effet non plus. Et que dans certaines circonstances, elles peuvent avoir des effets importants selon le contexte. Je vous donne un exemple bien précis. À l'élection canadienne de 2011, un parti d'opposition était dirigé par Jack Layton, le nouveau Parti démocratique, qui était un tiers parti pendant très longtemps, mais qui, au début des années 2000, a connu une croissance de popularité. Jack Layton, politicien très charismatique, tout le monde a envie d'aller manger avec Jack Layton. Jack Layton, pendant sa campagne électorale, fera une entrevue à l'émission Tout le monde en parle. Et dans les jours qui suivent l'entrevue, on observe une montée importante des intentions de vote pour son parti au Canada et en particulier au Québec. Alors, instantanément, plusieurs personnes ont dit « Ben voilà, l'émission Tout le monde en parle a eu un effet très important ». Quelques mois après, des politologues ont examiné avec des données précises quel avait pu être l'effet de l'émission Tout le monde en parle. On peut pas exclure qu'elle ait eu un effet, mais cette diffusion a eu lieu dans une campagne électorale qui, pour Jack Layton et son parti, était très positive. Les choses allaient très bien. Quelques jours après l'émission, il a eu une très bonne performance dans un débat télévisé. Alors, c'est difficile d'isoler l'impact qu'une émission spécifique peut avoir. Mais lorsqu'elle s'insère dans une trame narrative comme celle d'une campagne électorale, ben, elle peut renforcer cette trame narrative qui peut être favorable ou au contraire défavorable à un acteur politique.
Frédéric Bastien, donc depuis Montréal, professeur au département de sciences politiques de l'Université de Montréal et auteur de Tout le monde en regarde, la politique, le journalisme et l'infodivertissement à la télévision québécoise qui est paru aux presses universitaires de Laval. Réaction Aurélien Le Foulgoc sur les propos tenus de votre collègue québécois.
Il y a tellement de choses intéressantes. La première action, c'est la mise en scène. Oui, ces formats mettent en scène l'information, et les plateaux aussi, d'une manière très singulière, notamment le fait d'être debout, de circuler, comme il le dit, oui. On voit ces appropriations, d'ailleurs, et c'est pour ça que je vous parlais de questionnement des pratiques journalistiques. On le voit dans le 20h, par exemple, de France 2. Vous avez le chroniqueur qui vient et qui se met debout sur le plateau.
C'est vrai. Ça, c'est assez récent.
Oui, exactement, et c'est dans les logiques de performance, hein, finalement. Ouais. Ce qu'il dit sur la narration, le fait de raconter l'information comme des histoires, oui, c'est fondamental. Parce que ça va donner une lisibilité, une familiarité aussi à des faits auxquels d'habitude on a accès dans la presse, par exemple, de manière très morcelée. Donc c'est des journalistes qui vont donner un éclairage très, encore une fois, narratif. On va nous raconter les enjeux, les tensions, les luttes, parfois, qu'il y a entre les différents acteurs. Et donc ça va donner une lisibilité particulière à l'information. La narration, elle est absolument centrale. On nous raconte des histoires depuis notre plus tendre enfance. Et en l'occurrence, la narration, c'est un dénominateur commun. Et ça, c'est fondamental parce que les talk-shows ont une logique de rassemblement. Sur la disparition des formats longs de plateau, comme ils pouvaient d'information, comme ils pouvaient le relever, on a quelques formats en France qui subsistent, même si effectivement on a une raréfaction. On a Cache Investigation, par exemple, sur France 2, qui fait un traitement de l'information assez poussé et alternatif. Vous avez Mots Croisés, qui propose du débat aussi. Donc, à la télévision française, on a quand même quelques restes, je dirais, du traitement politique des années 90. Mais par contre, là où il a totalement raison, c'est qu'en France aussi, on vient sur un traitement très événementiel de l'information, très opportuniste. C'est-à-dire qu'on multiplie les informations pendant les campagnes, et puis en dehors des campagnes, ben, on va...
Oui, là, vous parlez en l'occurrence des chaînes, en flux continu, des chaînes d'information...
Je parle des chaînes généralistes, des chaînes comme France 2, par exemple, comme TF1, qui vont traiter l'information politique, encore une fois, sur un mode événementiel. Ce que j'entends par mode événementiel, c'est qu'on va créer des formats éphémères, qu'on va créer uniquement pour la campagne, puis après, ils disparaissent. C'était une des raisons, d'ailleurs, c'est Anne-Sophie Lapie.
C'est ce que vous appelez la sérialisation.
Alors, la sérialisation, c'est autre chose, c'est une manière de donner une stabilité au contenu. C'est-à-dire que vous allez créer des chroniques qui vont être des chroniques récurrentes, et cette information, vous allez l'intégrer dans ces chroniques. Mmh. Donc là, vous allez créer de la familiarité. Pendant toute la campagne, on a tout un générique qui est créé sur le traitement de la campagne américaine par quotidien, et donc on a des génériques qui sont des génériques stables et qui vont, encore une fois, donner une familiarité, une stabilité au contenu.
Mmh. On traverse à nouveau l'Atlantique. On va retrouver Matthew Baum, qui est donc un spécialiste des médias, qui est professeur à l'université de Harvard aux États-Unis, qui est auteur de plusieurs ouvrages sur les rapports entre politique étrangère, opinion publique américaine et médias. En 2003, il avait notamment écrit cet ouvrage « Soft News Goes to War », donc en français « L'infotainment, l'infodivertissement part en guerre ». Et dans ce livre, il s'intéresse donc aux émissions d'infotainment, d'infodivertissement, ce qu'il appelle lui le « soft news ». C'est une formule qu'il a introduit à l'époque. Et il se demandait comment, à partir des années 90, eh bien celles-ci ont influencé l'opinion publique américaine sur ces questions de politique étrangère. Il explique que ces émissions initialement dédiées au divertissement ont paradoxalement sensibilisé un public non averti sur ces thématiques, celle de la politique internationale, pourtant reléguée au second plan par les journaux télévisés traditionnels. On le retrouve, il est au micro de Samuel Bernard.
The soft news media, I'm talking about things like daytime and late night.
Les médias de soft news ou d'infotainment, les talk shows de jour ou de fin de soirée, les late shows, ce sont avant tout des moments dédiés au divertissement. Ils n'ont pas pour but initial d'informer les gens. Ils sont dans le business du divertissement. Et au fil du temps, ces médias ont trouvé une manière de tourner certains événements politiques en divertissement. Et quand on pense aux guerres, on peut se demander qu'est-ce qu'une guerre ? C'est un soap opéra classique. Ça peut être cadré en récit, si quelqu'un est enclin à le faire, et la transformer en un soap opéra télé. On a des personnages qu'on peut aimer ou détester, des événements dramatiques. C'est une dramaturgie humaine classique en ce sens. Donc si j'ose dire, la guerre est venue en premier, et les producteurs ont vite réalisé que la guerre est une des thématiques qui marche le mieux avec le public de ces émissions. Donc, ils vont procéder de la manière suivante. Quand un pilote américain est abattu au Kosovo, ces médias allaient interviewer la famille, la femme, les parents du soldat américain, avec toute une charge émotionnelle. Et dans un même temps, ils parlaient du conflit. Et si vous écoutiez cette interview, vous entendiez surtout la souffrance de la famille. Et en même temps, les gens discutaient, et vous ne pouviez pas ne pas entendre quelques bribes d'informations sur ce qui se passait au Kosovo dans cet exemple.
Donc, les soft news ont paradoxalement ouvert une sorte de brèche à des personnes qui, auparavant, ne s'intéressaient pas à ces sujets. Donc on serait tenté de dire que l'effet final est globalement positif pour le public concerné, Matthew Baum.
It depends on the issues. Right after 9/11, all of the soft news media pretty much...
Ça dépend des sujets traités. Par exemple, juste après le 11 septembre, tous les médias de soft news se sont concentrés à 100% sur le 11 septembre. Pendant que les médias mainstream d'information câblée, proposaient des explications géopolitiques, se demandant qui étaient les terroristes, bref, ils étaient sur un niveau d'analyse. Au contraire, les médias d'infotainment disaient « Mon Dieu, est-ce que ça va encore avoir lieu ?» En d'autres termes, c'était beaucoup plus dirigé par l'émotion et par la peur, participant à un sentiment de panique générale.
Matthew Baum, est-ce que vous pouvez citer des cas où, au contraire, ces médias ont participé à une véritable sensibilisation du public américain ?
Oui, un autre exemple qui date de 98, c'est avant le témoignage de Bill Clinton dans le cadre du scandale Monica Lewinsky. Le président a lancé des missiles de longue distance contre l'Afghanistan et le Soudan 4 jours avant son témoignage devant les juges. Et dans les jours qui ont suivi, tous les soft news étaient focalisés sur à quel point cette situation ressemblait au film Wag the Dog, où le président est dans un scandale sexuel et crée une guerre absurde pour distraire l'attention du pays. Et donc tous les médias de soft news se focalisaient sur ça, ils interviewaient des célébrités, glosant et retournant le sujet, tout se résumait à « Wag the dog, wag the dog, wag the dog ». Leur propos consistait donc à dire que ces missiles étaient juste une distraction. Et on s'est retrouvé avec une énorme majorité des médias de soft news qui proposaient ce type de couverture. De l'autre côté, les médias traditionnels n'ont pas mentionné le film du tout. Et pourtant, ça a eu une énorme influence, car quelque chose comme la moitié du public était persuadé que ces missiles de croisière était lié au scandale Lewinsky.
Une autre question, Matthew Baum. Depuis un certain temps, on parle d'ère de la post-vérité, mais aussi de fake news. Dans quelle mesure pensez-vous que l'émergence et le succès des émissions de soft news, d'infotainment, aient pu participer à la situation actuelle où chaque vérité semble pouvoir être mise en discussion ?
Soft news is...
Donc alors, les soft news, je vous ai déjà dit être moi-même ambivalent vis-à-vis de ça. Le bon aspect, c'est que ça atteint des gens qui autrement ne seraient pas atteints. Le mauvais aspect, c'est que ça propose généralement un traitement très superficiel de l'information. Les éléments ne sont pas contextualisés. Donc développer une compréhension profonde d'un sujet dans les médias de soft news est un véritable challenge. Mais à ce premier phénomène s'ajoute celui d'un énorme tournant technologique dans le système d'ego de l'information, auquel l'émergence des réseaux sociaux a joué un rôle très important.
Donc un changement technologique, on l'entend bien, Matthew Baum, mais d'abord lequel et aussi dans quelle mesure et surtout comment est-ce que celui-ci pourrait être à l'origine d'une fragmentation des vérités possibles dans les médias, j'entends, Matthew Baum ?
In a world of oligopoly like we had in the 1950s, 60s and 70s where you had basically 3 channels and they were all showing the same thing, you watched what was on. So if the news was on, you
Eh bien, alors que dans un monde oligopolistique comme nous l'avions dans les années 50, 60 et 70 où il y avait environ 3 chaînes qui montraient toutes la même chose, à l'époque vous regardiez ce qu'il y avait. Donc quand les infos passaient, vous les regardiez. Mais ce qu'il s'est passé ensuite, c'est l'émergence du câble, de la télévision satellitaire, l'explosion des chaînes sur le câble, puis l'arrivée d'Internet, le blogging, tout ça a explosé le nombre de canaux, ce qui a eu pour conséquence d'exploser et d'atomiser l'audience en de petites niches. Il y a quelques années, Fox News donnait les informations pour les conservateurs. Maintenant, c'est Breitbart, qui est largement à droite de Fox. Et donc aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est qu'une portion des gens qui regardaient des soft news ont plutôt envie de voir ce qu'on pourrait appeler des news extrêmes, un peu comme le sport extrême. C'est peut-être moins proche de la réalité, mais beaucoup plus excitant. Donc il y a une niche pour ça, et ça prend de l'ampleur. Et il se trouve que c'est plus piquant et attirant que ces soft news qui parlent de famille et de hobby, ce genre de choses. Donc c'est pour ça que, oui, je dirais qu'il y a une progression ici qui résulte d'évolution technologique et d'un tournant dans ce que j'appelle le système d'ego des médias.
Une dernière question, Matthew Baum. Que pensez-vous du phénomène de très forte politisation des late shows ? On voit apparaître un certain nombre d'émissions, comme celle de John Oliver, Trevor Noah ou encore Colbert, qui assument une position fondamentalement partisane et ouvertement critique envers le gouvernement, en particulier depuis l'administration Trump. Qu'est-ce que ça vous inspire, Matthew Baum ?
When I was writing about this phenomenon in the 1990s and early 2000s,
Oui, lorsque je travaillais sur ce phénomène au début des années 90 et dans les années 2000, la plupart des soft news étaient ouvertement non-partisans. Dans une de mes études, j'ai retranscrit les interviews des candidats à la présidence et il s'est avéré qu'il n'y avait pratiquement aucune référence aux partis et aux idées politiques, contrairement aux interviews d'informations politiques qui ne parlaient pratiquement que de cela. Donc, un contraste important.
And I think, what's happened is circumstances
Et je pense que ce qu'il s'est passé, c'est que les circonstances depuis Donald Trump, la campagne et surtout son élection, ont créé une possibilité, une ouverture. Une énorme partie du public est franchement terrorisée par cette administration. Et la proportion de gens qui suivent les informations quotidiennement a énormément augmenté.
So if I'm, you know, a lagging late night talk show like say Colbert.
Donc si je suis un présentateur d'un talk show du soir, disons comme Colbert, c'est une énorme opportunité et il l'a prise. Et je pense qu'on peut généraliser, ce n'est pas que Colbert en général, c'est le marché qui répond à une nouvelle demande des consommateurs.
Matthew Baum, donc, depuis Cambridge, professeur de communication et de politique publique à l'université JFK d'Harvard. Aurélien Le Foulgoc, tout le monde connaît Matthew Baum. Quand on fait de la communication politique et médiatique, on le connaît. Que vous inspirent ces propos? En guise de conclusion.
Oui, sur les conflits, on retrouve une configuration analogue en France où, par exemple, vous avez Ismaël qui va être suivi par l'équipe de Quotidien à Alep lors des bombardements de la ville. Et donc, vous avez effectivement une forme de dramaturgie et le fait de se rapprocher de personnages, de l'humain, en fait. Et donc ça, c'est deux oppositions qu'on peut faire, une opposition pardon, entre les soft news d'un côté, qui sont des informations très incarnées dans lesquelles on va être dans le quotidien, dans le vécu des individus, et les hard news de l'autre, qui sont beaucoup plus désincarnées, dans lesquelles on va parler par exemple d'une réforme, mais de manière très très globale.
Ouais. Oui, c'est toujours cette nécessité, enfin, en tout cas ce qui manque du côté de la soft news, de l'infotainment, c'est ce manque de contexte.
Oui, en revanche, on peut nuancer. Thierry Ardisson contextualise énormément quand il aborde un sujet. Lorsqu'il a abordé le cas du voile, par exemple, à Aubervilliers, il y a quelques années, plus d'une dizaine d'années, il a invité Lila et Alma, le père, le MRAP, tout le monde sur le plateau. Ça a duré 50 minutes et il a déconstruit toute l'affaire. Il l'a mise à plat de manière très didactique.
Donc on peut aussi le faire, on peut mettre en contexte.
En France, on a plus le temps de le faire, j'ai l'impression.
Et peut-être aussi la culture. Et peut-être aussi la culture de décryptage.
Tout à fait, le goût de ce décryptage, c'est certain.
Merci beaucoup Aurélien Le Foulgoc d'avoir été avec nous ce matin. Je vous mets au défi, est-ce que vous savez qui est en train de jouer du saxophone?
Oh, non, pas vrai.
Vous pouvez le savoir. Un président américain.
Ah mais oui, c'est Bill Clinton.
Bill Clinton bien en sûr. 1992 dans une émission Arsenio Hall. Fait au moins ça pour finir une émission sur l'infotainment. Merci beaucoup Aurélien Le Foulgoc. Je rappellerai que vous êtes maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'université de Cergy-Pontoise, auteur notamment d'un article qu'on peut retrouver dans la revue Télévision, je vois de loin, c'est je crois la numéro 8. Il y a notamment cette étude comparative qu'on a fait entre ce talk show français et ce talk show américain. Un grand merci d'avoir été avec nous. Il est 11h presque 53 minutes, l'heure de retrouver Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors cette semaine, vous allez nous parler de l'Allemagne et des Allemands. Il vient de paraître chez Gallimard justement la traduction du tout dernier livre écrit par Norbert Elias. Il est titré « Les Allemands », sous-titre « Évolution de l'habitus et lutte de pouvoir au 19e et 20e siècle ». Il vous passionne, pourquoi ?
Eh bien parce que cet ultime effort accompli à la veille de sa mort, le livre est paru en allemand en 1989 et Elias est disparu l'année suivante, apparaît comme une espèce de réponse à tous ceux qui avaient critiqué ses ouvrages fondateurs. Et aussi comme une interrogation très personnelle de ce juif allemand sur les phénomènes sociaux et culturels à l'origine de l'idéologie qui a causé la mort de ses parents. Son père a été tué à Breslau, sa mère a disparu dans le camp d'Auschwitz. Le livre entreprend de répondre à la question lancinante « Pourquoi le nazisme ? Pourquoi en Allemagne ?» Norbert Elias est surtout connu comme l'auteur d'une vaste fresque consacrée à ce qu'il a appelé le procès de civilisation. La civilisation des mœurs et la dynamique de l'Occident forment les deux volets d'une vaste théorie du processus de civilisation en Europe. Il en achève la rédaction en Angleterre, où il s'est réfugié à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Il y mènera d'ailleurs une existence précaire, d'universitaire jamais reconnu pour le génie qu'il était. Mais c'est grâce à la réédition en allemand de son livre, 30 ans plus tard, à la fin des années 60, alors qu'il est à la retraite, qu'il acquiert l'immense notoriété qui est encore aujourd'hui la sienne. Or, ce que Norbert Elias appelle le procès de civilisation, c'est une histoire parallèle D'un côté, celle de la manière dont l'État moderne se constitue en se réservant le monopole de la violence. De l'autre, celle de l'autocontrôle exercé par les individus sur leur violence spontanée, leurs instincts, leurs affects. La société de cour, que Norbert Elias étudie en utilisant toutes les ressources intellectuelles disponibles, impose une inhibition des passions. Elle prescrit des codes de comportement ritualisés, des formes de dissimulation dont fait partie la pudeur. Progressivement, l'ensemble des sociétés européennes s'en inspirerait tout en les transformant. De son vivant déjà, bien des lecteurs avaient fait remarquer à Elias que le processus de civilisation par l'autocontrôle des pulsions agressives qu'il décrit si bien cadrait assez mal avec le déchaînement de violence auquel ont donné lieu les deux guerres mondiales.
Alors doit-on en conclure que sa thèse était radicalement fausse, qu'un processus de décivilisation avait succédé à son fameux procès de civilisation ? Et si c'est le cas, pour quelle raison ?
Eh bien, ce livre, Les Allemands, donc, est extraordinaire précisément parce qu'il constitue la réponse de Norbert Elias à ces questions qui revêtaient pour lui une importance existentielle. Premier élément de réponse, Elias relève que depuis les années 30 du XXe siècle a eu lieu une désinformalisation des rapports sociaux. Autrefois, les rapports formels, notamment ceux qu'entretiennent en public des personnes appartenant à des classes sociales ou des classes d'âge différentes, obéissaient à des rituels codés. Au cours du XXe siècle, la différence entre ces comportements formels et les comportements informels, ceux qu'on entretient spontanément avec des pairs comme les discussions de bistrot, s'est progressivement atténuée au point d'avoir presque disparu de nos jours. On est cool avec ses profs comme avec ses copains. D'où relève-t-il une inquiétude générale sur les statuts sociaux ? Cette fluidité nouvelle déstabilise autant qu'elle émancipe. Sans poser directement la question du rapport qui pourrait exister entre ce relâchement général des normes comportementales depuis les années 30 et ce qu'il nomme le grand relâchement de la conscience morale qui s'est produite en Allemagne à l'époque du national-socialisme, il donne en note de bas de page la clé même de son livre, je cite. « Je me suis posé au début la question de la civilisation comme un problème tout personnel » quant au grand effondrement du comportement civilisé, à la grande poussée de barbarisation qui se sont produits en Allemagne sous mes yeux comme quelque chose de tout à fait inattendu. Et il poursuit. Il y eut effectivement dans le national-socialisme une tendance latente à se laisser aller, au relâchement de la conscience morale, à la grossièreté et à la brutalité. Au début, elle se manifestait surtout au niveau des comportements informels. Fin de citation. Mais dans la mesure où il était vivement encouragé, voire exigé dans les hautes sphères du parti nazi, ce style de comportement fut adopté dans les relations formelles. Car c'est bien le groupe dirigeant du régime qui donna le signal d'un relâchement général de la contrainte civilisationnelle. Alors on connaît la thèse centrale de la dynamique de l'Occident. Dans les sociétés traditionnelles, agraires, le contrôle social est exercé de l'extérieur, par les autres et par les autorités. Dans les sociétés modernes, les contraintes propres, autrement dit le contrôle de soi, prennent le dessus. Les normes sont intériorisées. Comment une telle inversion du processus de civilisation a-t-il pu se produire en Allemagne ? Eh bien, la réponse générale du livre est, pour des raisons qui tiennent à l'histoire particulière de ce pays. Et pour résumer d'une phrase, contrairement à ce qui s'est produit en France ou en Angleterre, la bourgeoisie a perdu face à l'aristocratie. Elle a été incapable de réaliser l'unification de l'Allemagne dans une optique libérale en 1848, et c'est le chancelier Bismarck qui l'a réalisé par le fer et par le sang, grâce à deux guerres victorieuses consécutives, contre l'Autriche d'abord, puis contre la France, 20 ans plus tard.
Merci Brice Couturier pour cette chronique consacrée donc à l'Allemagne et aux Allemands. Je rappelle pour les auditeurs, chez Gallimard, le tout dernier livre traduit de Norbert Elias, titré tout simplement « Les Allemands ». On poursuivra demain. Merci beaucoup Brice Couturier. Dans un très court instant, on retrouve La Grande Table avec Olivia Gesbert.